BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Et on file sur le marché pour entamer cette deuxième heure de BFM Patrimoine. C'est Frédéric Rosier qui nous attend chez Mirabeau. Bonjour Frédéric. Vous nous entendez Frédéric?
Oui, je vous entends.
Parfait, nous aussi. Écoutez, on prend quelques bénéfices, c'est assez logique après trois séances de hausse.
Oui, et aussi dans le sillage des minutes de la Fed, hein, qui confirme vraiment le biais de finalement d'une Fed qui sera peut-être pas aussi accommodante qu'on pouvait l'imaginer, hein, c'est-à-dire que la trajectoire des taux et de la baisse des taux n'est aujourd'hui plus envisageable en 2023. Aucun gouverneur n'a cette hypothèse aujourd'hui, donc c'est tout à fait normal que le marché réagisse par rapport à ça, avec aussi quelques données, notamment d'activité en Chine, peut-être un petit peu décevantes, donc voilà, propice à des prises de bénéfices quand même après un gros mouvement quand même de hausse depuis le 1er janvier.
Bon, il y a quelques dossiers qui méritent qu'on y jette un œil, notamment Ryanair.
Oui. Oui, Ryanair. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant, parce qu'on parlait, vous savez, après le Covid, le monde d'après, le monde d'avant, et finalement les résultats, les guidance donnés par Ryanair sur l'activité aujourd'hui sont assez exceptionnels, hein, puisque Ryanair augmente ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2023, pas de 5, pas de 10%, mais de 25%, hein, donc on est vraiment sur une fourchette très haute, avec effectivement notamment sur la rentabilité des choses qui vont plutôt dans la phase d'amélioration. On voit d'ailleurs, hein, que le taux d'occupation des avions est quasiment de 90%, les avions sont quasiment pleins aujourd'hui, et en termes de nombre de voyageurs aussi, on est quasiment 10% au-dessus des attentes. Donc c'est une très belle publication qui montre quand même que sur le tourisme, qui a énormément souffert aussi l'année dernière, il y a vraiment aujourd'hui de la valeur à aller rechercher et des valorisations qui sont plus qu'attractives.
Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Rosier, donc, depuis Mirabeau ce matin, avec ce marché parisien qui, pour le moment, marque un petit peu le pas après l'ascension des dernières séances, des premières séances de l'année. On perd 0,27%, 6758 points. Tout de suite, c'est l'Info Éco avec Faïza Younzi.
L'Info Éco, Faïza Younzi.
Bonjour à tous. Année 2023, année de l'expectative pour les chefs d'entreprise. C'est ce que révèle notre baromètre exclusif réalisé avec Eurogroup. 75% des chefs d'entreprise interrogés lors de cette enquête restent dans l'attente compte tenu des successions de crises énergétiques, inflationnistes, politiques. Ces chefs d'entreprise qui redoutent en particulier les pénuries et les hausses de prix des matières premières, des risques qui pèsent sur leurs prévisions de rentabilité qui n'ont jamais été aussi faibles. La page de l'inflation n'est pas encore tournée aux États-Unis. L'alerte de Gita Gopinath, la numéro 2 du FMI. La lutte contre la hausse des prix doit se poursuivre. Selon elle, il est important que la Fed maintienne une politique monétaire restrictive jusqu'à ce qu'une baisse très nette et durable de l'inflation soit évidente. Toujours aux États-Unis, cette situation inédite au Congrès. Toujours pas de speaker élu à la Chambre des représentants pour succéder à Nancy Pelosi. Les républicains se déchirent malgré l'appel de Donald Trump à soutenir le favori Kevin McCarthy, un candidat jugé trop modéré par la frange conservatrice du parti. Le vote doit reprendre aujourd'hui en fin d'après-midi. C'est un plan social finalement plus lourd que prévu pour Amazon. Les réductions d'emplois vont affecter 18 000 employés, y compris en Europe. Bien plus que les 10 000 annoncés en novembre. Jamais le groupe n'avait licencié autant de personnes dans son histoire. Il avait embauché à tour de bras pendant la pandémie pour répondre à une très forte demande, une activité qui s'est essoufflée ces derniers mois. En Allemagne, baisse inattendue des exportations en novembre. Un repli de 0,3%, un peu plus important que ce qui était attendu par les analystes, pénalisé par un recul des achats chez les principaux clients dont la Chine. La forte inflation et les incertitudes continuent de peser malgré l'atténuation des tensions dans les chaînes d'approvisionnement. En France, une forte remontée des défaillances d'entreprises en 2022, c'est ce que nous dit la Banque de France. Elle dépasse les 41 000 par an. Elle reste malgré tout inférieure à leur niveau pré-Covid de 20%. Et ce sont les PME surtout qui sont victimes de ces défaillances. Après les boulangers, c'est au tour des restaurateurs d'être reçus à Bercy cet après-midi. Eux aussi réclament un coup de pouce du gouvernement pour payer les factures d'énergie. Les boulangers avaient obtenu de pouvoir renégocier leurs factures sans pénalité sur les contrats les moins avantageux. Et on termine avec Interparfums qui bondait en bourse après avoir relevé ses prévisions pour 2022 pour la quatrième fois. Le groupe prévoit un chiffre d'affaires à plus de 700 millions d'euros en hausse de plus de 25% et même une meilleure rentabilité que prévue, avec une marge opérationnelle qui devrait dépasser les 17%.
Faiza Younzi qui nous accompagne chaque heure pour lire l'actualité économique. Tout de suite, regard croisé à suivre.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Regard croisé qui accueille ce matin Véronique Riche-Flores. Bonjour Véronique.
Bonjour Cédric.
Pour RF Research et Frédéric Rollin. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Pour PICTM, meilleurs voeux à tous les deux. Merci d'être présents au rendez-vous de BFM Patrimoine. Alors cette année commence avec, vous ne l'avez certainement pas manqué, une petite note du FMI qui se montre très optimiste et qui nous dit que l'année 2023 va être difficile pour une grande partie de l'économie mondiale avec les trois moteurs qui connaîtront un ralentissement, les États-Unis, l'Europe, la Chine. On va donc faire tourner la map monde pour parler de ces différentes zones. Mais d'abord, petite question provoque que je pose à tout le monde depuis le début de la semaine, depuis qu'on a découvert cette note. Est-ce qu'il faut croire le FMI, Véronique ?
Si on en juge par le passé, on se dit qu'on a le droit de prendre nos distances à minima. Le FMI a jamais été très avancé hein, en matière de prévisions et de signaux. En revanche, les études de fond, l'analyse, la situation financière, effectivement, permet en général de pointer de vrais sujets. Voilà, pour l'exercice prévisionnel, voilà. En tout cas, c'est pas ma tasse de thé.
Frédéric, faut-il croire le FMI ?
Je crois que le FMI, effectivement, renouvelle ses prévisions peut-être à un rythme un petit peu plus lent que ce que font en général les professionnels de marché. Donc c'est vrai que ces révisions à la baisse et ce pessimisme économique est déjà un pessimisme qui est assez largement partagé par l'ensemble des économistes. Mais malgré tout, on a eu quand même des nouvelles récemment sur la Chine qui peuvent aussi faire changer d'avis. C'est-à-dire que la Chine est en train de ralentir aujourd'hui, enfin a ralenti fortement en 2022, hein, qu'elle a une croissance encore inférieure à 2023, ça nous paraît plus que douteux, hein, notamment avec les nouvelles de réouverture, mais dont on n'a probablement pas encore pu tenir compte le FMI dans ses prévisions.
Alors, on prend la map monde, on va prendre la course du soleil, on commence donc par l'Est, par la Chine, qui se débat avec son Covid désormais. Qu'est-ce qu'il faut penser, croire, espérer ou redouter de la Chine, Véronique ?
Alors, on peut développer à peu près tous les scénarios en réalité sur la Chine, c'est-à-dire une vague de Covid phénoménale qui met complètement à plat l'économie.
Pour le moment, quand on voit les images, c'est pas glorieux. Hein.
C'est pas glorieux, et puis une récession, on y est déjà probablement d'ailleurs, hein, avec potentiellement des effets, j'allais dire en chaîne, mais voilà, en chaîne sur les chaînes de valeur, donc pénurie, éventuellement à nouveau des pressions haussières, des tensions sur les prix. Bon. Et puis, on peut se dire, bon, bah, finalement, on a tous connu cette épidémie, ces épisodes à répétition, et c'est peut-être le mieux qui arrive à la Chine aujourd'hui pour immuniser une plus large partie de sa population. Et finalement, on va avoir quelques semaines, difficile de dire exactement, hein, mais au-delà de cela, eh bien, finalement, on va quand même avoir une reprise, et en réalité, après avoir enfermé la population chinoise pendant autant de temps, on pourrait avoir un rebond de la demande qui, mécaniquement, qui ne nous dit rien sur l'avenir de la Chine ou la situation fondamentale, hein, mais qui devrait booster la croissance et la demande internationale. C'est ce que jouent les marchés, hein, depuis fin novembre d'ailleurs, et voilà, alors il y a des doutes, parce que bien évidemment, on ne connaît pas bien non plus les variants chinois, leur impact sanitaire. Il y a beaucoup d'inconnus, mais on se promène entre ces deux scénarios qui sont diamétralement opposés. Dans un cas, vous avez une Chine qui plombe la croissance mondiale et qui nous fait véritablement douter des indicateurs de reprise qu'on a par exemple en Allemagne. Et puis dans l'autre cas, et potentiellement avec un peu plus d'inflation, dans l'autre cas, vous avez effectivement de la marge pour de très bonnes nouvelles, au moins temporaires, avec à la clé quand même un risque de flamber des prix des matières premières qui pourrait nous rattraper sur les problématiques inflationnistes. Voilà où nous en sommes. Je ne suis pas sûre aujourd'hui de pouvoir véritablement, j'ai ma petite préférence, ma petite sensibilité, mais de pouvoir véritablement
assurer. Comment est-ce que vous regardez, vous, cette Chine, Frédéric Rollin?
Je pense que l'ouverture de la Chine, maintenant qui paraît confirmée, va être, je dirais, d'un point de vue humain et à court terme, évidemment, très difficile à vivre. Hein. C'est une population qui est mal immunisée, dont les vaccins fonctionnent moins bien, en tout cas, que ceux qu'on a, et dont le système hospitalier s'est fortement développé. Hein. C'est un des succès de la Chine au cours des dernières années, mais certainement moins bien équipé aujourd'hui par rapport à cette population extrêmement importante que ce qu'on peut avoir en Europe ou aux États-Unis. Mais je dirais, plus vite l'épidémie se propage, plus vite l'immunité sera acquise, et à ce moment-là, effectivement, l'économie chinoise pourra repartir. Nous, on a le sentiment qu'on est probablement, avec les derniers PMI qu'on a eu, en train de vivre le pire. On a vu les PMI services même passer en dessous de 40 en Chine. Mais on commence à voir, même dans certaines villes, 12 grandes villes chinoises, la fréquentation des métros, du métropolitain, qui est en train de réaugmenter. Donc, on a effectivement cette épidémie qui va probablement faire rage aujourd'hui et au cours des semaines à venir. Mais finalement, ça n'empêche pas aujourd'hui, apparemment en tout cas, l'économie de fonctionner. On pourrait du coup avoir un rebond économique un petit peu plus fort que celui qui pouvait être anticipé à partir du deuxième, troisième trimestre de l'année 2023. Alors, on parle de l'épidémie, il faut prendre des pincettes, on ne sait pas toujours tout, mais je dirais le scénario de rebond économique chinois au cours du deuxième semestre paraît un petit peu plus fort. Et ajoutons enfin des différentes mesures ont été prises depuis novembre, renforcées probablement en janvier sur les promoteurs immobiliers chinois, dont certains sont en grande difficulté, on le sait, mais auxquels désormais on accorde un accès au capital beaucoup plus important qu'il n'était auparavant.
Voilà donc pour la question chinoise. On tourne la map monde et on arrive en Europe. Là, c'est le royaume de l'inflation encore. Alors, il y a quelques indices en Allemagne qui nous laissent entendre que peut-être on a passé le pic, mais...
On est probablement au niveau du pic. Voilà. Alors après, à un ou deux mois près, il y a toutes les incertitudes, notamment en France, la levée des boucliers tarifaires ou des dispositifs un petit peu partout qui peuvent évoluer et faire du bruit. Fondamentalement, néanmoins, je répète, aujourd'hui, il est extrêmement difficile pour un économiste de ne pas prévoir une forte décrue de l'inflation. Ce sont des effets de base, ce sont des effets énergétiques. Rappelons-nous qu'en mars, et ça va venir vite, le prix du pétrole était à 130 dollars. Aujourd'hui, nous sommes à 80 dollars. On peut même avoir une flambée des prix du pétrole à 130 dollars en variation sur un an. Ça fera zéro. Alors qu'on était l'année dernière à plus 50 ou je ne sais plus combien. Donc, mécaniquement, vous avez dans les tuyaux un puissant phénomène de désinflation. Alors après, qu'est-ce qu'on en fait, ce truc-là? Qu'est-ce que ça signifie? Moi, mon credo, c'est de dire, attention, c'est pas parce qu'on a l'inflation redescend à 3% au lieu de 5 ou à 6 au lieu de 10 que ça va forcément résoudre tous les problèmes. En fait,
parce que les prix resteront chers.
Les prix s'accumulent, et peut-être que ces derniers 3% de hausse sont la partie qui va faire basculer un certain nombre de comportements, notamment du côté des consommateurs, et être la plus difficile à digérer. Il y a des effets de seuil qui sont toujours difficiles à anticiper, il y a des effets retard, et puis fondamentalement, il y a la politique économique. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte de politique économique restrictif? Ma réponse est non. Vous avez des taux d'intérêt, y compris donc et surtout en Europe, à 2,5%, avec une inflation encore quasiment à 10%. Ça vous fait des taux d'intérêt réels très négatifs, qui participent de cette résilience de l'économie, bien évidemment. Ouais, et puis, de l'autre côté, vous avez des budgets, des États, qui continuent à déployer des moyens phénoménaux, et on comprend bien compte tenu des menaces actuelles, etc. La question, c'est est-ce qu'on peut continuer comme ça tant que les taux d'intérêt réels sont à moins 5 ou moins 6%, oui, sans doute. À un moment donné, néanmoins, ça va gripper. Et voilà un petit peu le type. Donc, oui, de l'inflation, moins d'inflation, ça peut redonner un peu de pouvoir d'achat. En même temps, c'est encore un vrai sujet pour les perspectives.
L'Europe, qu'est-ce que vous nous en dites chez Pictet?
Une inflation qui va probablement baisser, et pour nous il n'est pas du tout impossible finalement que la BCE soit ravie en fin d'année 2023 d'avoir une inflation à 2%. Ça reste très largement possible. On a quand même un très fort ralentissement économique. Des consommateurs qui sont sous pression aujourd'hui devant les hausses des prix, notamment les prix de l'énergie. Des entreprises qui vont faire face quand même à des restrictions monétaires. Ça se voit pas encore vraiment dans les données BCE. Enfin, ça commence à se voir. Mais la BCE quand même monte ses taux dans une période de ralentissement. Tout ça va faire une croissance économique en Europe proche de zéro, pour l'année 2023. 2023. Donc voilà, ça va être une année économiquement difficile. Enfin, on sera sorti du problème inflationniste, mais le coût de sortie de ce problème inflationniste, ça sera le fait que l'économie sera vraiment proche de l'atonie.
Bon, voilà donc pour cette zone Europe. Et puis les États-Unis, c'est de là que tout va s'arranger, entre guillemets, ou pas, Véronique ?
Ou se déranger.
Ou se déranger. Bon, bien. Dites-nous pourquoi.
Voilà, Frédéric vient de le dire, 0% en Europe. On arriverait à peu près à ça. Et puis, on a une menace quelque part, un peu plus loin, c'est la récession américaine. Et du coup, effectivement, nous, on est plutôt légèrement négatif pour l'Europe. Parce qu'effectivement, il me semble, aujourd'hui, l'économie américaine tient plutôt bien, tient à peu près. Elle est maintenue à flot grâce à des phénomènes de stockage, un peu d'investissement encore des entreprises, c'est du rattrapage post-Covid. L'emploi tient, ça va être quand même une question à un moment donné au niveau de la profitabilité des entreprises, parce que là on a un peu comme en Europe d'ailleurs, hein, mais enfin de manière un peu plus marquée aux États-Unis, de vraies problématiques par rapport à cette résilience de l'emploi. Et puis une banque centrale américaine qui va... qui va peut-être lever le pied, sans doute. Hein. On a tous le même scénario, on a plus ou moins 50, 75 ou 100 points de base, et puis après on arrête. On arrête pourquoi ? Parce que l'économie américaine bascule en récession. Elle bascule en récession parce qu'effectivement, le niveau des taux d'intérêt commence véritablement à gripper, parce que le marché immobilier est en récession. Et du coup, vous avez sans doute un début d'année qui pourrait être assez positif aux États-Unis par rapport aux attentes, mais derrière, beaucoup de difficultés à imaginer que la Fed puisse lever le pied dans de telles conditions. Hein, parce qu'effectivement, les sous-jacents inflationnistes sont encore là. Et alors, moi, je suis un peu plus dubitative sur les perspectives, sur l'environnement inflationniste, y compris en zone euro. Et je pense qu'on aura beaucoup, beaucoup de mal à redescendre à 2%, si ce n'est ponctuellement, etc. Mais parce qu'il y a
énormément de liquidités. Ça veut dire que les banques vont devoir... ajuster leurs objectifs, se dire que le monde a changé, que c'est plus 2, mais que c'est peut-être 3, 4.
Alors, elles le font peut-être, et c'est probablement une typologie de discours qu'on peut envisager vers le milieu de l'année, qui permettrait effectivement d'arrêter ou de lever le pied en matière de hausse des taux. Le grand risque, c'est finalement que cet excès de liquidité mondiale revienne avec une inflation à nouveau en 2024 ou à peu près par là. Mais oui, c'est probable qu'on soit tenté par ce type de discours et d'action, parce que l'activité va être très faible à un moment donné.
Frédéric, les États-Unis, on va guetter la réalité du pivot ?
Oui, alors je pense que voilà, la Fed continue de monter ses taux, mais on est probablement bientôt au bout, hein, puisque voilà, on a quand même des signes de ralentissement économique qui sont patents, avec des enquêtes auprès des entreprises qui sont très médiocres et une consommation qui est clairement aujourd'hui en train de patiner. Donc ça continue de croître, mais assez doucement. Et puis des banques qui aujourd'hui le disent clairement, c'est pas encore vraiment acté, mais qu'elles vont moins prêter dans les trimestres qui viennent. Donc du coup, un ralentissement économique. Une inflation qui est en train de baisser, elle baissera peut-être un petit peu moins vite qu'en Europe, mais dans l'ensemble, une réserve fédérale qui aura fait son travail, hein, puisque voilà, l'inflation est en train de reculer, et qui aura fait son travail, et qu'en plus va commencer peut-être un petit peu plus à s'inquiéter de ce qu'on n'a pas encore vu, mais après un ralentissement économique, ou pendant un ralentissement économique, on commence à voir une montée du chômage. On a vu par exemple là, certaines valeurs technologiques, entreprises technologiques, licenciées assez fortement. C'est pas encore le cas aujourd'hui dans l'ensemble de l'économie américaine, mais ça va arriver. Donc tout ça participera à la fois au ralentissement de l'inflation, mais aussi au fait que la Banque centrale américaine n'est plus très loin aujourd'hui. Alors, je dirais pas de pivoter, mais au moins de stabiliser sa politique. D'accord. Ensuite, la crainte peut-être quand même que de voir l'inflation repartir, donc le maintien d'une politique monétaire entre 4,75 et 5% par exemple sur le taux, peut-être un petit peu plus longtemps que ce que les marchés n'espèrent aujourd'hui.
Voilà donc pour ces trois grandes zones qui sont en tout cas les trois qu'a émis en avant dans son communiqué le FMI. Est-ce qu'on survole aussi le reste du monde, la Russie, le Brésil, l'Inde, enfin bref, ces émergents ou pas ?
Forcément. Forcément, surtout si on parle de Chine. Alors, il y a la problématique américaine, bien évidemment, et donc hausse des taux, envolée du dollar qui n'est plus un sujet. Donc, c'est vrai que ça allège les pressions sur le monde émergent. Reste le gros sujet Chine. Est-ce que la Chine redevient un moteur pour ce vaste monde émergent? Je pense au Brésil, à l'Inde également. L'Inde qui tire plutôt bien son épingle du jeu avec une Chine empêtrée. Hein. Est-ce qu'on a en Inde un mouvement de fond? Est-ce que finalement Modi arrive à gagner ses paris? Je suis très dubitative. Je pense qu'il y a plus d'effets ponctuels sur les bonnes nouvelles qui nous viennent d'Inde qu'autre chose. Mais voilà, la porte est ouverte, l'interrogation, la possibilité que l'Inde amorce quelque chose de fondamentalement un peu différent et durable est à suivre. Et après, il y a le reste du monde émergent, les gros exportateurs de matières premières, encore et toujours, qui verront ou non, dans les évolutions chinoises, de quoi retrouver une dynamique. Je suis beaucoup plus réservée sur cet aspect de la chose, mais voilà, on sent bien que les marchés vont être tentés par cette histoire-là. Il me semble que c'est encore un peu périlleux.
Les émergents ou le reste du monde, alors, je ne sais pas comment il faut les appeler.
Comment le 2022 a pas été, ça a été plutôt une année dollar, donc les émergents ont beaucoup souffert, la Chine y compris. Nous on a l'impression que 2023 ça va être le renversement, donc on a parlé de la Chine. Voilà, si on a un rebond économique chinois sur la base de valorisations qui sont quand même aujourd'hui encore très très médiocres, je pense que les actions chinoises, on peut les regarder. L'Inde est toujours un pays intéressant sur le moyen terme avec sa démographie très avantageuse, hein, et augmentation de la population active jusqu'en 2040. Mm-hmm. Par exemple, réformes du gouvernement Modi qui font leurs effets, donc un potentiel de développement important, mais un marché qui a très très bien performé en 2022, hein, notamment soutenu par des investisseurs locaux, des épargnants qui ont vu, qui ont un peu moins aimé les produits de taux, hein, en voyant l'érosion des taux réels avec la montée de l'inflation. Donc un marché un peu cher, mais je dirais plus à voir sur le long terme que spécifiquement pour l'année 2023. Et du côté de l'Amérique latine, nous on va plutôt regarder les obligations, hein, et les devises, hein, qui sont très largement sous-valorisées et souvent des banques centrales quand même qui ont, notamment au Brésil, pas toutes, mais enfin notamment au Brésil, qui ont pris les devants, hein, sur la Fed et qui aujourd'hui sont capables de montrer que l'inflation chez eux aussi est en train de baisser, et même pour certains pays comme le Brésil, l'inflation sous-jacente. Voilà, il y a des taux réels qui sont très très importants, historiquement importants, sur les obligations en devise des pays émergents, obligations brésiliennes, avec une inflation qui est en train d'être stabilisée, donc ça c'est plutôt bon du niveau du côté des taux, et puis en plus des devises extrêmement sous-valorisées. Donc pour nous, la dette émergente en monnaie locale, c'est un excellent instrument de diversification pour 2023.
Bon, on s'est dit beaucoup de choses. Si on traduit tout ça, qu'est-ce qu'il faut espérer pour les marchés? Je ne vous demande pas forcément, Véronique, de sortir votre boule de cristal et de me donner le niveau du CAC au 31-12.
Elle est très opaque, cette boule. Elle peut être très...
Il faut la frotter.
J'ai envie de dire, ce qui me gêne depuis deux mois à peu près, c'est que finalement, on a l'impression que les marchés européens pourrait pas faire grand chose mais s'en sortir plutôt bien, et qu'on a droit effectivement à considérer une certaine rotation sectorielle, un peu plus de banques qui ont déjà ceci dit fait un bon parcours là, et un peu plus de cyclique bien évidemment, et puis j'élargis le spectre et je vois les indices européens américains qui eux me disent oui bon il va quand même falloir faire attention parce que la correction des indices américains semblent très loin d'être terminés. Moi, il me semble qu'on a bien facilement encore 20% de baisse sur le Nasdaq et sur le S&P. Ah oui. Et à partir de là, effectivement, ça réfrène forcément
les envies.
Et donc, voilà, je pense que la correction américaine est loin d'être terminée, que la détérioration des résultats des entreprises est à venir. Attention à l'effet prix, hein, qui a été très favorable l'an dernier quand l'inflation s'envolait, qui va être très défavorable à partir du moment où l'inflation s'écrase. Donc l'effet prix sur les résultats des entreprises, peut-être même d'ailleurs sur certains indicateurs. PMI sont quand même un peu suspects. Et la forte baisse, par exemple, d'hier, peut peut-être s'expliquer par un effet d'un biais de prix. Donc, finalement, j'ai envie de dire, oui, on peut se permettre quelques opportunités, ne pas prendre, s'exposer néanmoins à des risques ou aux risques sur très long terme. Après, regardons ce que fait l'or quand même, parce que je pense que le marché de l'or nous renvoie des signaux intéressants. Depuis, finalement, que la Fed a laissé entr'ouverte la porte au pivot, fameux pivot. Vous voyez l'or qui s'envole. Pourquoi ? Alors, bien évidemment, les taux d'intérêt ne montent plus ou très peu, mais je pense que le marché de l'or est en train de nous dire les banques centrales ne vont pas faire ce qui... Elles vont pas aller jusqu'au bout du job.
D'accord.
Et donc, voilà. Et du coup... Dans l'ensemble, quand même, une perspective assez réservée sur la stratégie d'investissement, moins négative néanmoins qu'il y a quelques trimestres.
Est-ce que votre boule de cristal est plus lisible que celle de Véronique ou tout aussi opaque ?
Il y a une certaine lisibilité. Maintenant, on va se risquer à faire des prévisions pour 2023. On a vu tout à l'heure une économie européenne, américaine, plutôt modeste, proche un peu supérieure à 0% de croissance. Des banques centrales qui sont quand même encore en mode resserrement, même si ça va se modérer. Donc tout ça, c'est pas très belle perspective pour ces marchés actions. En revanche, du côté des émergents, c'est réouverture notamment de la Chine qui part de très bas, aussi des politiques plus pro-croissance du côté du gouvernement chinois sur la base de valorisations qui sont plutôt faibles, donc actions chinoises, actions indiennes pour le moyen terme, donc finalement actions émergentes. Et du côté des taux, finalement on va préférer les obligations européennes aux actions européennes, hein, parce qu'on est finalement, on a quand même des sur le crédit des taux proches de 4% assez souvent, donc c'est quand même assez intéressant. Et puis sur les obligations aussi, devises émergentes et taux émergents sur lesquels on a des beaux rendements. Et enfin sur les secteurs, nous on aime particulièrement le secteur défensif. C'est vrai quand même, on a une forte baisse de la croissance économique. Secteur de la santé, qui est un secteur extrêmement extrêmement défensif et qui connaît notamment avec les progrès de certaines biotechnologies une résurgence de l'innovation. Et pourquoi pas d'ailleurs le secteur des biotechnologies qui aussi aujourd'hui profite des progrès de l'intelligence artificielle, des progrès du découpage génétique et de plusieurs nouvelles technologies qui ont été mises en place.
Merci à tous les deux d'avoir participé à Regards Croisés ce matin. Véronique Richelorès et Frédéric Rollin étaient en plateau. Dans un instant, un détour par les marchés grâce à Jean-Louis Cussac, que l'on aperçoit chez Perceval Finance Conseil. Et après, on continue à vous donner un maximum de conseils et à répondre à toutes vos questions.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Allez, on file pour entamer cette dernière demi-heure sur le marché. On rejoint Perceval Finance Conseil, ses bureaux bordelais, pour retrouver Jean-Louis Cussac. Rebonjour Jean-Louis, le marché parisien donc qui a enchaîné trois séances consécutives de hausse et qui, prend quelques bénéfices, mais qui se dit « je voudrais pas trop m'éloigner de la ligne de flottaison ».
Ah non, mais là, on est largement au-dessus. Cette phase d'une heure de marché, là, depuis qu'on s'est parlé à 10h30, va dans le sens d'un retracement, tout ce qu'il y a de plus classique, et d'une attente toujours optimiste. Donc, si vous voulez, c'est une phase d'attente, de retracement. On attend des stades de l'emploi, etc. On a 600 millions, on vient de les franchir, là, c'est faible. Donc, vous voyez, cette baisse, en plus, se fait avec un volume qui est beaucoup moins important qu'hier, parce que hier, à 10h30, nous avions déjà fait les 600 millions. Et donc, il n'y a pas de changement de psychologie. Tout le monde reste dans des attentes donc optimistes, avec des valeurs sur une heure où il y a peu d'écart, des valeurs qui rattrapent, rien de remarquable. Je vous dis, c'est vraiment une confirmation que le moral reste bon. On a ce sentiment, quand on observe comme ça l'ensemble du marché, que il reste très solide malgré son très haut niveau quand même, 6700, 6800, si vous voulez, c'est par rapport à la liste longue des problèmes à résoudre, ça paraît très 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 optimiste au niveau encore une fois des attentes, mais bon, c'est comme ça, faut faire avec. On est au-dessus, mais nettement au-dessus des niveaux d'alerte potentielle. Donc même si le marché perdait 150 points, ça remettrait pas en cause l'idée d'acheter. De toute façon, on reste acheteur. Nous étions repassés acheteurs à vers 6160 franchis. Vous voyez, donc depuis, on est resté tout le temps acheteur et avec de la prudence parfois, bien sûr, surtout en fin d'année, avec des marchés qui manquaient de densité. Bon, là, on a des indications très divergentes. On peut, si vous voulez, en étant soi-même optimiste ou pessimiste, on peut voir dans les chiffres, dans les perspectives, dans les analyses des économistes, etc., on peut voir ce qu'on veut, du positif, du négatif. Donc, il y en a pour tous les goûts. Et comme il y avait et il y a une hyper prudence sur les marchés, zéro complaisance, eh bien, on a des marchés qui ont rebondi et qui se disent qu'après tout, les choses ne peuvent qu'aller mieux pour la suite des événements. Voilà.
Merci beaucoup, Jean-Louis. Jean-Louis Cussac, depuis Perceval Finance Conseil, donc, et ce marché parisien qui baisse modestement, -0,2%, -0,3% à 6757 points. Du côté des autres places européennes, la baisse est assez similaire, à -0,3%, -0,4% pour l'Eurostox 50. L'eurodoll est à 1,0613.
BFM Business, BFM Patrimoine, sur le green.
Anne-Catherine Husson-Traoré est avec nous. Bonjour Anne-Catherine.
Bonjour.
Meilleurs voeux. Directrice générale de Novetic qui nous accompagne sur ces questions de green finance régulièrement. Alors entre le froid extrême qu'on a tous vu à la télé fin décembre aux États-Unis, la douceur qui fait fondre la rare neige qui est tombée sur nos massifs, ou encore la bombe cyclonique qui déferle en ce moment sur la Californie, les exemples de risques physiques liés au réchauffement climatique ne manquent pas. Et ces événements, ils provoquent des dégâts, bien souvent, et ils sont assez peu pris en compte, ou en tout cas évalués dans les portefeuilles, non ?
Oui, et c'est quand même paradoxal, puisqu'effectivement, là, on a des risques qui se matérialisent, on a des choses qui coûtent, à la fois dans ce qui est détruit, de ce qu'il faut reconstruire, et on a effectivement un impact économique très très concret du changement climatique. Et en fait, ce qui est inquiétant, c'est un rapport de l'initiative finance du programme des Nations Unies pour l'environnement qui vient de sortir et qui, en gros, a relu les rapports climat de 180 institutions financières, banques, assurances.
Donc, a priori, on devrait parler de tout ça.
Oui, et puis surtout les 180 qui sont les plus importants. Et en fait, ils en ont trouvé moins de la moitié qui mentionnent une sorte d'évaluation de ces risques physiques, ce qui est déjà pas très rassurant. Et sur cette moitié, on en a qu'un quart qui donne de l'information détaillée sur les scénarios, sur l'impact, et en gros, qui donne témoignage du fait qu'ils ont vraiment évalué l'impact sur leur portefeuille, c'est-à-dire à la fois les actifs qu'ils financent, les prêts, les crédits, puisque évidemment, les modèles économiques qui sont impactés par tous ces phénomènes climatiques, ça a des résultats, ça a des impacts très concrets sur leurs résultats.
Oui, par exemple, un crédit immobilier dans une zone inondable.
Alors, voilà, tout à fait. Et puis, vous savez, par exemple, que si vous habitez une zone inondable qui est inondée, et que vous êtes inondé pour la troisième fois, enfin, la troisième année consécutive, en général, la deuxième année, il vous augmente sérieusement, et la troisième année, il vous explique qu'il ne peut plus vous assurer. On a ce phénomène-là en France, aux États-Unis, ou par exemple le front de mer de Floride, de Miami, qui a beaucoup pris des événements climatiques. Eh bien, les habitants ont reçu une petite lettre de leur assureur en disant : écoutez, vous êtes inassurable. Au revoir, merci. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est absolument clé. Alors, c'est absolument clé pour l'assurance, on le voit très bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a par exemple une initiative, il existe quand même des choses, hein. Ouais. Initiative de Generali, qui a lancé en décembre un site qui s'appelle Ensemble face au risque. Et en fait, l'idée, c'est qu'il avait développé un Climate Lab avec effectivement ses actuaires, les assureurs, mais aussi des météorologues et d'autres experts pour en fait modéliser les différents risques, hein, pas que inondations, mais
donc
aussi.
Donc, et savoir à quelle hauteur ils sont
voilà.
exposés.
Et en fait, ils ont mis en ligne, du coup, toute cette recherche, ils l'ont mis à disposition du public, c'est-à-dire que dans ce site, on a juste, c'est assez simple, hein, on a un petit champ pour rentrer son adresse. Et si vous rentrez un email, on vous envoie un rapport de risque personnalisé. Leur idée, c'est de faire de la
prévention. Pour ça, il faut être chez Generali ou c'est ouvert à tout le monde?
Non, non, c'est ouvert à tout le monde. Et en fait, l'idée, c'est que du coup, la plupart des gens, ils savent pas très bien forcément qu'ils sont en zone inondable. Et sur les maisons individuelles, ça permet de faire de la prévention. Alors, selon le type de risque, ça peut par exemple encourager à débroussailler, puisqu'on a bien vu que la propagation des incendies, c'est lié à ça. Et en fait, ils ont déjà chiffré ce que ça leur permet d'économiser en termes d'assurance, parce qu'il y a une meilleure prévention, c'est entre 2 et 5 millions par an. Ce qui n'est pas négligeable, puisque c'est vraiment très très récent.
Bon, donc on le voit, et vous nous dites finalement il y a assez peu de professionnels qui se mêlent de cette histoire-là. Pourtant, ça coûte très cher.
Bah, en fait, la logique, et vous le savez, c'est que les modèles assurantiels d'analyse de risque, ils sont basés sur une analyse historique du passé. Alors qu'on peut sophistiquer de plus en plus avec l'intelligence artificielle, mais enfin, de facto, pour être bon sur ces évaluations de risque, il faut travailler sur des scénarios futurs, en sachant que certains sont plus probables que d'autres. Et donc, ça suppose de changer toute la mécanique de la façon dont on analyse le risque. Et en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, là, en ce moment, il y a divers phénomènes climatiques. On parle toujours des gens, des individus. Bon, sur le ski, on parle un peu plus de l'économie. Mais en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand il y a une catastrophe climatique, alors évidemment, on espère qu'il y a le moins de morts possible, mais en fait, ça a des impacts économiques colossaux. Prenons le blizzard aux États-Unis, ça a paralysé complètement tous les vols, ça a paralysé toute une économie, par exemple des commerces qui, juste avant Noël, vendent en général beaucoup de choses. Bah là, plus personne se déplaçait et plus personne ne livrait non plus. Donc il y a vraiment une façon de paralyser l'économie. Puis on peut avoir des exemples beaucoup plus concrets. Dans les supermarchés, par exemple, j'ai en mémoire du côté de Mandelieu, Cannes, il y a eu vraiment une énorme inondation. Un supermarché qui n'était pas encore ouvert, qui a déjà été inondé, donc vous imaginez la conséquence économique, mais on a aussi par exemple un Décathlon qui est resté fermé 4 mois parce que inondation. Donc du coup, 4 mois de chiffre d'affaires en moins et puis 4 mois de chômage technique pour les employés. Donc vous voyez bien que les modélisations économiques peuvent exister. Alors sur le ski, c'est évident, si on ferme la moitié des stations, plus de remontées, plus de forfaits, plus de location de ski, plus de, etc. Et en fait, on est, et c'est vraiment ça, quand on parle d'adaptation au changement climatique d'un point de vue économique, c'est d'être capable d'anticiper combien de fois dans l'année il peut y avoir ce genre de phénomène.
Et mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a encore énormément de chemin à faire et qu'il faut que les professionnels se retroussent les manches.
L'un des paradoxes du monde de la finance par rapport au changement climatique, c'est qu'il a beaucoup plus travaillé sur le concept de stranded assets, c'est-à-dire de se dire qu'à quel moment il va y avoir une dépréciation d'actifs sur telle et telle valeur pétrolière, par exemple, qui va arriver sans doute, mais comme vous l'avez constaté, ce n'est pas en ce moment.
Ouais.
En revanche, l'impact très concret de ce type de phénomène est moins documenté.
Pour essayer d'être assez concret, c'est-à-dire qu'il faudrait imaginer des stress tests qui ne soient pas économiques et des scénarios sur la dette, etc., mais de faire un stress test climatique.
Vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que ça reste très utile de faire des grands scénarios macro, mais finalement, souvent, on se trompe beaucoup. Alors que si on essaie de croiser ce qu'a fait par exemple Generali avec toute cette technique de, aujourd'hui, on peut cartographier, modéliser un certain nombre de risques et de se dire, ça me coûte combien par rapport au fait de quelle est mon exposition en termes d'assurance, de crédit. Évidemment, si on est un assureur du secteur agricole ou un prêt, on est une banque qui fait des prêts agricoles, vous imaginez bien que tout ça a des impacts qui sont très très mesurables. Sur la capacité de remboursement des prêts des agriculteurs, par définition, il y a un énorme sujet. Et ces sujets-là, aujourd'hui, sont peu travaillés alors qu'ils sont extrêmement concret et là permettrait d'avoir des diagnostics économiques à un horizon.
Et donc ça doit être pris par qui ? Par la Fédération, enfin, par France Assureur,
par tout le monde, j'ai
le National, par l'Europe, par l'ONU, par.
Eh bien, absolument tout le monde. C'est ce qu'on appelle une mobilisation générale sur les questions d'adaptation. Et là où le rapport qui vient de sortir est une grosse alerte, et c'est pour ça qu'ils ont choisi ce thème, c'est de se dire, aujourd'hui, là comme ça, on n'a qu'une moitié au mieux de l'ensemble des acteurs financiers majeurs qui a bien compris le risque et qui essaie de l'évaluer.
Anne-Catherine Husson-Traoré qui poussait un cri ce matin.
Un cri calme.
Novetic qui nous accompagne régulièrement sur le green. À très bientôt.
Merci à vous.
Le marché parisien qui limite encore un petit peu plus son recul. On ne perd plus qu'un 0,1% en ce moment. 6763 points. Et tout de suite, c'est l'heure de répondre à toutes vos questions.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Jean-François Filiatre est de retour en plateau pour Marché Gagnant afin de répondre à toutes vos questions. Mais avant d'attaquer les questions, On prend les questions en général parce que on en a beaucoup qui nous contactent pour dire combien je vais gagner cette année avec mon assurance vie. C'est donc deux saisons. C'est le journal du fonds en euros. Qu'est-ce que vous avez dans votre besace ce matin, Jean-François?
Eh bien, on avait commencé la semaine dernière, c'était il y a 15 jours, à l'occasion du débat où j'avais commencé à sortir le premier taux, c'était Mileris qui était à 2,15 en forte progression puisque c'était à 0,95 l'année précédente. Donc, on va poursuivre. On sait traditionnellement, ceux qui sortent les premiers sortent les meilleurs taux, donc ça nous donne un certain nombre d'indications. Et donc, le premier qui a dégainé cette année, c'était le communiqué de presse qui est tombé le 2 janvier, c'est Garance qui l'année précédente, c'est-à-dire en 2021, s'était largement distingué avec un taux de 2,75%. Donc, Garance a annoncé pour l'exercice 2022 sur son contrat d'assurance vie Garance Épargne, ainsi que sur son produit d'épargne retraite Garance Sérénité, un taux de 2,80%.
Bon.
Et alors, je vais vous dire tout de suite, et on va peut-être même un peu creuser le truc cette année par rapport aux années précédentes. Afficher un taux, moi j'adore tout ce que je lis sur les taux qui sont communiqués, ça ne veut rien dire.
Ah.
Donc c'est sympa.
Donc ce petit journal ne veut rien dire.
Le petit journal, s'il se limitait à donner des taux, ne voudrait rien dire.
C'est pour ça qu'il y a de l'analyse.
Il va falloir essayer de comprendre, parce que vous connaissez la formule, un taux de contrat d'assurance vie, ça ne se constate pas, ça se
décrète.
Et alors justement, il faut essayer de comprendre les éléments du décret. Alors, élément majeur chez Garance, et ce sera quand même l'une des grandes questions de cette année 2022, les taux 2022 diffusés en 2023. Garance, la gestion de Garance, historiquement, affiche des taux de rendement de l'actif qui sont relativement élevés. Le taux de rendement de l'actif, c'est grosso modo la performance qui est réalisée avec l'argent des clients. Le 2,80, c'est le taux qui est donné aux clients. Donc, en 2021, lorsqu'ils avaient distribué 2,75, le taux de rendement de l'actif était de 3,67%. Peu ou prou, les derniers chiffres, ils ne les ont pas encore, mais peu ou prou, le taux de rendement de l'actif va rester stable. Ça veut donc dire, juste qu'on ait quand même quelques petits trucs en tête, qu'il y a quand même des assureurs qui arrivent à cracher du 3,70 sur leurs actifs dans leur gestion. Donc, ça veut donc dire la chose suivante, puisque les frais de gestion de ce contrat sont de 0,50%, ça veut donc dire que Garance parvient à remonter légèrement le taux servi au client, et dans le même temps, Garance parvient à doter légèrement ses réserves. L'un des grands débats de l'année, ça sera est-ce qu'on pioche ou est-ce qu'on pioche pas? La réponse de Garance, c'est on n'a pas pioché, on a doté. Comment font-ils? Schématiquement, le portefeuille de Garance, c'est 70-75% à peu près d'obligations, qui ont des taux aux alentours à peu près de 4, plus une partie d'infrastructures et d'immobilier. Et ça, techniquement, ça fait peu ou prou 80% de leur temps. Et les 20% restants, c'est quoi? Ce sont des plus-values, en particulier parce qu'ils ont 16% d'actions. Donc, ils ont pris une partie de leur plus-value. Ils ont encore des plus-values latentes. Donc, il n'y a pas eu de provision qui a été faite sur des moins-values sur les portefeuilles titres. Mais ça, c'est un élément qui est un élément important. Cet élément important, je vais vous dire, on va presque le retrouver dans le deuxième taux que je vais vous annoncer aujourd'hui. C'est le taux, il est tombé ce matin, c'est le taux de la MACSF, notamment le RES multisupport, qui passe de 2,10 à 2,50%. Donc là, on se dit forte hausse. À l'évidence, la MACSF a quand même voulu marquer un coup. Alors, il faut savoir que la MACSF était historiquement dans le top du top des classements. Mm-hmm. Et puis, il y a eu un certain nombre de décisions stratégiques à la fin des années 2010, puisque le rendement en 2019 avait fortement chuté, il était tombé à 1,70%, il avait continué sa baisse l'année précédente à 1,55%, avant de remonter l'an dernier à 2,10%, et cette année donc de passer à 2,50%. Alors, je ne vais pas vous donner tous les détails, parce que comme il y avait une conférence de presse ce matin, que j'ai suivi discrètement avec mon casque pendant que je venais vous retrouver, Il y a plusieurs chiffres quand même qui m'interpellent dans ce qui a été donné par la MACSF. Premièrement, la MACSF nous dit que le taux de réinvestissement qui a été fait sur les obligations l'an dernier, c'est 3,05%. Mm-hmm. Sur le fond, c'est assez faible. Deuxième remarque, la moitié du taux de rendement vient de plus-values qui ont été réalisées sur le non-coté. Alors la MACSF fait du non-coté depuis longtemps, donc ils ont des titres depuis longtemps, donc ils ont un potentiel de plus-value, mais peu ou prou, ça pèse quasiment la moitié du dividende qui est servi. Et ça, c'est un élément important. Troisième élément qui est un élément important, là encore, comme chez Garance, la MACSF a doté ses réserves, plutôt que de les reprendre. Je dis ça juste pour simplifier, parce qu'en réalité, tous les assureurs trichent. C'est-à-dire qu'en fait, ils distribuent les réserves des années
passées.
Parce
qu'ils sont obligés ?
Non, pas parce qu'ils sont obligés, parce qu'ils font en fait rouler leur position.
Oui.
Donc ça retarde au
maximum. On dit quand même que c'est dans les 6 ans ou je sais pas quoi.
Dans les 8 ans. Enfin, l'affaire dit dans les 6 ans, mais la règle c'est dans les 8 ans. Mais en pratique, je peux vous montrer techniquement comment on arrive à tenir des réserves pendant 15 ans sans jamais les redistribuer. Donc, c'est pas le sujet. Mais donc, grosso modo, il y a plus de réserves cette année en pourcentage que l'année précédente, et on est à 4,30%. Et ça, vous voyez, ce qu'on est en train de voir dans ce début de l'année et dans les commentaires qu'on doit faire, et finalement, dans ce que je fais avec, j'espère, un peu d'expertise, finalement, chaque épargnant devrait se poser les questions là, et je pense qu'il y aurait le besoin, quelque part, d'une règle de bonne conduite au niveau de la place pour dire un certain nombre de choses structurellement dans les communications.
En clair, ne pas faire qu'afficher le taux, quoi.
Ne pas faire qu'afficher le taux. Afficher le taux des performances réelles, le taux de rendement de l'actif, qui n'est pas dans les communications financières de la majorité des établissements, alors que les établissements auront l'obligation de le mettre dans le relevé qui est adressé aux clients. De mettre l'état des réserves et de le mettre en pourcentage et en montant pour savoir ce qui se passe, parce que juste un truc tout bête, vous pouvez avoir vos réserves qui augmentent simplement parce que vos encours ont baissé. Donc, si vous avez 100 de réserves et que vous avez 90 bien sûr, ou 50 d'encours, ça ne fait pas tout à fait le même niveau. Et puis, je crois maintenant, parce qu'on voit bien, aussi bien chez Garance que chez MACSF, que la distribution de plus-value prend un rôle non négligeable, eh bien, ça serait bien qu'on affiche aux clients l'état des plus-values latentes que l'on peut distribuer. Je rappelle qu'il existe une règle en assurance vie. Lorsque vous faites une plus-value sur des actions, vous avez le droit de la distribuer. Lorsque vous faites une plus-value sur de l'immobilier, vous avez le droit de la distribuer. Lorsque vous faites une plus-value sur une SICAV obligataire, vous avez le droit de la distribuer. Mais en revanche, lorsque vous avez des titres obligataires que vous détenez en direct et que vous vendez avec une plus-value, là, vous n'avez pas le droit de la distribuer, ça doit alimenter une réserve qui s'appelle la réserve de capitalisation. Réserve de capitalisation qui pourrait être bien utile, parce que c'est chez elle qu'il faut aller piocher quand, à contrario, on fait des moins-values. Et avec ce qui s'est passé cette année sur le marché obligataire, je peux vous dire qu'il y a quelques assureurs qui ont vu leur compteur de plus-value latente obligataire passer dans le rouge.
Bon, voilà donc pour ce journal du fonds euro, et on continuera à suivre au cours des prochaines semaines, bien évidemment, pour vous rendre compte des effets les plus saillants des publications des différents assureurs. Question d'Élise, à l'heure des bilans, quid des résultats du portefeuille de marché gagnant en 2022?
Je vais vous donner un chiffre. Après, chacun juge. Performance du portefeuille de marché gagnant, en tenant compte des opérations qui ont été faites, des distributions, etc. Moins 9,47 à comparer à moins 9,50 pour le CAC 40. Si je prends...
On est dans les purs, quoi.
Ouais, on est dans les purs. On est dans les purs. Si je prends les chiffres depuis qu'on l'a créé, donc depuis, on rappelle qu'à l'origine, je vous avais demandé de faire un tirage au sort avec une valeur par secteur. On est à plus 25,9% contre une performance pour le CAC 40 de 16,6%. Techniquement, on avait très bien performé la première année. On a très bien performé jusqu'au mois de juin. On a pris une grosse mandale à partir de juin. La prochaine fois que je vous en parlerai dans le détail, parce qu'il faut vraiment rentrer dans le détail pour essayer de comprendre ce qui a bien et ce qui a mal fonctionné. Et là encore, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure dans la chronique. Faire des bilans, ça permet de savoir, non pas de croire, mais de savoir réellement les choses. Juste quelques petites remarques sur les 9 valeurs aujourd'hui qu'on a en portefeuille, puisque depuis la sortie d'Orpea, on n'a plus que 9 valeurs parce qu'on n'a pas remplacé Orpea dans le secteur de la santé. Donc, je vais faire quand même quelques petites remarques. on arrive à faire un tout petit peu mieux. Je veux dire, pareil que le CAC, on va simplifier. Pareil que le CAC, quand on a quand même l'honneur d'avoir eu la plus grosse tôle du marché de l'année.
Ouais.
Et on rappelle l'histoire, Orpea, le 27 janvier, à la suite à la sortie du bouquin Les Fossoyeurs, je dis, il n'y aura pas de débat avec la communauté, on va passer un ordre pour la vendre, on va tenter de profiter d'un rebond technique. On n'a jamais profité du rebond technique, puisque ça a continué à baisser. Donc là encore, quand on dit, j'entends les chartistes qui disent, ouais, ça a baissé de 20%, donc on va avoir un rebond technique de, on va avoir un rebond technique du tiers du mouvement. Bah ouais, bah on a testé, on a vu, ça a pas marché, dans notre cas. Donc, in fine, on a été obligé de la vendre à l'arrache au mois de novembre. Parce qu'il y avait eu cette fameuse restructuration financière. Et là, j'étais revenu en plateau en disant, bon là, moi, j'arrête de jouer. Donc là, maintenant, il faut qu'on la sorte parce que, donc on a quand même la plus belle tôle. Qui doit faire moins 90% de l'année. Et finalement, comme plus elle baissait, moins elle pesait dans le portefeuille.
Mais c'est ça, au bout d'un moment, ça...
À un moment, ça fait même plus mal.
Ça change plus la performance.
À un moment, ça
fait
plus mal.
C'est les premiers moments.
Mais à un moment, s'il faut aussi retenir la chose suivante, c'est qu'on se prend une tannée sur ce dossier-là. On a quand même eu l'intelligence, à aucun moment, de dire ça a baissé, donc ça a valu tant, donc ça va remonter, donc je vais faire une moyenne à la baisse. Sujet important. Donc ça, on a
le moyen n'est pas forcément à la baisse.
On a une valeur qui est en positif, mais qu'on n'avait pas au 31 décembre dernier parce qu'on l'a acheté dans l'année, c'est Pernod Ricard. Si on regarde dans le détail, il y a quatre valeurs qui sur l'année se prennent un assez gros pain, puisque c'est supérieur à 20%. C'est Crédit Agricole, Alten du côté technologique, Veolia et Saint-Gobain. On a une valeur qui est quasiment flat, c'est Orange, qui en fait est légèrement positif parce que ça distribue beaucoup de rendement. Et puis on a deux valeurs qui sont légères baisses, c'est le luxe avec Christian Dior et le CGG sur la partie énergie. Juste d'ailleurs, dans tous les commentaires que j'entends sur les marchés en disant « Ah ouais, mais ceux qui n'étaient pas sur les défenses, sur l'énergie et sur le luxe en 2022 se sont plantés », en réalité, Total a bien fonctionné. Ouais. Le luxe, il y a quand même de gros écarts. Et en tout cas, le luxe, on est globalement en performance négative.
Allez, il vous reste 1 minute 30 pour répondre à Kevin. Faut-il profiter de la hausse du taux du PEL pour en ouvrir un vite afin d'épargner?
Si je suis un peu la méthode de marché gagnant, je vous répondrai non. Je vous répondrai non et je vais vous dire pourquoi. Très vite, le PEL est à 2. La méthode marché gagnant, on dit dans une famille, on doit avoir un livret A plein pour faire l'épargne de précaution. Donc ça veut dire qu'on a un autre livret A potentiel, notamment pour le conjoint. Le PEL à 2 ne sera pas compétitif sur l'année 2022 par rapport au livret A.
Bon.
Donc, à la rigueur, le nouveau taux du PEL, ça sera pour dans un an. Bah donc on a un an à rester sur le livret A et dans un an, comment il s'appelle, c'est Kevin.
Ouais.
Et Kevin, il me reposera la question et je lui donnerai peut-être une réponse différente.
Eh bien voilà, comme ça on a réglé la question et puis en plus ça nous donne du travail pour dans un an, c'est bien, c'est la garantie
de l'emploi.
De l'emploi. Jean-François Filiat, le directeur éditorial de Marché Gagnant, qui nous accompagne chaque jeudi pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous écrire bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. Merci Jean-François, à la semaine prochaine.
Semaine prochaine.
Le marché parisien qui reste pour le moment toujours en petite baisse, à moins 0,2%. Et nous, on retrouve Sandra Gandoin qui prend le relais dans quelques minutes.
Et oui.
Que nous avez-vous concocté pour le programme du jour?
On va revenir évidemment sur les vœux qui viennent de se terminer de Bruno Le Maire. Il y a en France une ivresse de la dépense publique. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Il a aussi parlé d'inflation, d'énergie, d'industrie verte. On va en parler avec Nathan Cocampo dans le détail et avec Jean-Marc Daniel, évidemment. On reviendra aussi sur les fournisseurs d'énergie dans la tourmente mise en cause par les artisans commerçants, les boulangers, les restaurateurs qui sont reçus à Bercy cet après-midi. On en parlera avec Jean-Marc et puis on parlera aussi de la médecine de demain. Notre invité, c'est Quentin Pernez, le directeur général de l'IVI, qui a été choisi par Mon Espace Santé pour s'occuper de la téléconsultation. Voilà, ce sera le programme.
C'est à suivre dans un instant. Le marché, je vous le disais, toujours en petit repli, prise de bénéfice après 3 séances consécutives de progression. On est à 6761 points. Et moi, je vous donne rendez-vous dès demain matin à 10h pour une nouvelle session de BFM Patrimoine. Très bonne journée.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.